Plus FM, 8h passé de 4 minutes, nous retrouvons Pascal Gaultier en compagnie de son invité. Bonjour Pascal.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Nous accueillons ce matin Charles Fournier, conseiller régional Europe Écologie Les Verts et chef de file des écologistes à l'occasion des prochaines régionales. Bonjour Charles Fournier.
Bonjour Pascal.
Bienvenue sur Plus FM ce matin au lendemain ou surlendemain des journées d'été d'Europe Écologie Les Verts qui viennent de se dérouler à Lille. Alors c'est un événement politique de rentrée important, hein, évidemment, puisque c'est le prélude à une séquence électorale importante avec les régionales de décembre prochain, puis avoir des sujets, enfin du moins vous l'espérez, comme la COP21 qui devrait mobiliser et intéresser le grand public. Alors au lendemain d'abord de ces journées d'été, on s'interroge sur le mot-clé finalement de cette journée. Est-ce que c'était climat? Est-ce que c'était programme? Est-ce que c'était alliance? Est-ce que c'était autonomie? C'était quoi le mot-clé de ces journées?
Je vais en prendre deux, si vous me l'autorisez. Je prendrai climat et je prendrai programme. Parce que, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. C'est-à-dire au-delà de l'écume médiatique, des petites phrases, parce qu'évidemment, c'est un moment dont tout le monde se saisit pour marquer éventuellement sa différence. Quand on est dedans, et si on lit pas la revue de presse, on se rend pas du tout compte de cette écume. Et ce que l'on vit, c'est 30 ateliers par jour, c'est des temps d'échange avec des militants, des débats tout à fait extraordinaires. Et cette année, évidemment, on avait placé ces journées d'été sous le signe des enjeux climatiques, de l'urgence climatique, et puis de l'élaboration de notre programme pour les prochaines élections régionales. Par exemple, moi, j'intervenais sur une table ronde sur les questions de formation professionnelle, comment se saisir mieux de ces questions dans la prochaine mandature pour les élections régionales. Donc, ce que j'ai vécu, moi, c'est un temps très fort d'échange avec des militants loin de cette écume médiatique.
Des petites phrases, effectivement, que l'on retient ici ou là, parce que c'est vrai que lorsqu'on regarde, enfin, peut-être la même revue de presse, Daniel Cohn-Bendit avait parlé de trou d'air des écologistes, Barbara Pompili parle d'une scission possible, François de Rugy s'interroge finalement en vous intimant lors de choisir entre écologie ou gauchisme. Tout ça, c'est effectivement l'écume.
Oui, parce que finalement, la plupart des gens que vous venez de citer n'étaient pas présents pendant notre université d'été. Donc, vous voyez bien que ça se passe ailleurs que dans l'université d'été.
Pourtant,
Quelques-uns, mais Jean-Vincent Placé, il est passé 2 heures si on le prend lui comme exemple. Mais tout ça, c'est pas le plus intéressant. Moi, je ne réfute pas qu'il y ait un débat. Sauf que ce qui se passe dans notre mouvement, c'est que les rassemblements qui se construisent, y compris avec d'autres forces politiques, se construisent à partir d'histoires dans les territoires. Et ça me semble extrêmement important. Nous sommes un mouvement qui se revendique fédéraliste, qui pense que les choses, elles se construisent avec les gens dans les territoires et qu'elles se construisent pas dans les états-majors parisiens. Voilà, là, c'est un débat d'état-major. Vous aurez remarqué que c'est nos figures médiatiques qui s'expriment. Dans les salles, quand ces rassemblements étaient présentés, avec des rassemblements différents d'un territoire à l'autre, ils étaient systématiquement applaudis. Donc je mesure un décalage entre ce que l'on construit, les militants qui se sont réappropriés la démarche, qui est une démarche ancrée localement, et puis ce débat d'état-major, voilà, qui occupe l'espace médiatique, sans doute beaucoup plus que ce que nous sommes capables de faire. Et c'est bien dommage, parce que c'est là que se construit l'avenir, c'est là que se construit l'alternative indispensable au regard des enjeux climatiques.
Ouais, mais cette alternative, ça passe autour d'alliance ou autour d'une autonomie?
Non, moi,
il y a un débat.
Oui, mais alors autonomie. Déjà, je pense qu'il faudrait que les écologistes apprennent à moins utiliser ce terme, puisqu'il nous renvoie systématiquement à l'idée que nous serions dépendants d'une force qui est le Parti socialiste. Moi, je crois que les écologistes ont des véritables solutions à proposer. Ils ont un projet. Ils sont prêts à gouverner. Regardez Grenoble. À Grenoble, on a construit. On est au pouvoir, en responsabilité, et ça se passe bien. Ça fait plus de presque 2 ans que les élections sont passées. Les résultats sont extrêmement intéressants. La construction citoyenne qui s'est engagée continue. Franchement, moi, je suis assez fier de ça, et je pense qu'on peut tout à fait faire ça aussi à l'échelle des régions. Donc la question des alliances ou des logos, la soupe de logos, je dirais, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'incarner un projet, que ce projet soit une réponse pour maintenant et pas pour demain aux enjeux de nos concitoyens, aux enjeux de notre planète. Et puis ce projet doit être incarné par des personnes, par des dynamiques, avec la société civile, avec les citoyens. Et voilà, il suffit pas d'apposer plusieurs logos sur un programme pour qu'il marche. Ce programme, il faut que les gens se reconnaissent dedans. Il faut qu'à titre individuel, à titre collectif, ce programme semble être en réponse aux problématiques de nos concitoyens.
Ouais, c'est votre souci justement à l'aube de cette campagne régionale qui s'ouvre, que vous allez diriger en région Centre-Val de Loire.
Oui, moi je vais essayer de faire une campagne en ce sens-là, c'est-à-dire d'abord un mois de septembre qui va être consacré à justement construire ce programme, continuer à construire ce programme avec les citoyens, et puis de faire en sorte qu'ils se reconnaissent dans l'histoire que nous allons raconter. Donc, par exemple, on va essayer de raconter des histoires de vie écologistes, c'est-à-dire des gens pour qui l'écologie a changé quelque chose, ou au contraire des gens qui ont du mal à transformer leur vie, voilà, mais qui, et ça c'est l'occasion de débat, de trouver des solutions. Je pourrais donner des exemples. Voilà, on a eu un débat extrêmement intéressant à Blois avec des citoyens sur la question du bio. Est-ce que le bio c'est cher? Est-ce que c'est compliqué de consommer bio? Voilà, et finalement, collectivement, on trouve des solutions et des réponses à des choses extrêmement concrètes. Et puis on va essayer aussi d'élaborer un peu des scénarios prospectifs pour nos territoires. Si les écologistes dirigeaient la région, qu'est-ce que ça changerait pour nous? Comment deviendrait notre territoire?
La région, mais évidemment. La région,
peut-être nous la dirigerons.
Vous avez un bilan à assumer en même
bien
temps.
Bien sûr, je crois qu'aussi les écologistes doivent apprendre à se penser comme étant en capacité à être en responsabilité, pas simplement être supplétif, à apporter une touche verte. Je crois qu'il est le contexte, l'urgence climatique nous conduit à devoir assumer de prendre cette responsabilité-là. Il y a urgence. Il faut sortir de l'alternance. Je pense d'ailleurs que les gens ne se reconnaissent plus dans ça. Finalement, la gauche ou la droite perdant se dit, c'est pas grave, on va attendre notre tour, le prochain tour. Non, là, je crois qu'on est devant une situation qui invite à une rupture, à un changement, et que nous incarnons possiblement ce changement.
Enfin, vous parlez de rupture, de changement, ce sont des mots qui sont forts. C'est y compris une rupture avec ce qui se passe en ce moment avec le gouvernement en place.
Ah, mais moi, évidemment, moi, je suis en rupture avec ce que produit le gouvernement, ce qui ne veut pas dire que je sois en rupture.
Donc, les écologistes n'auraient rien à faire.
Ah, pour moi, au jour d'aujourd'hui, on n'a rien à faire.
La tonalité à Lille?
Évidemment, assez
majoritaire.
Majoritaire. Mais ce qui exclut pas qu'on puisse à un autre moment imaginer que ça soit possible, parce qu'il y aura un véritable projet de changement et de transformation. Il n'y avait pas de cap de la transition écologique dans le projet qui a été porté jusqu'à maintenant. Le jour où il y a un cap extrêmement clair avec un engagement très fort et que ce cap est tenu, voilà, rien ne l'exclut. Moi, je suis pour qu'on soit dans une écologie de la transformation. Et donc, si les conditions de cette transformation sont réunies, je peux travailler avec tout le monde. Vous voyez, le sujet n'est pas de savoir si on est en alliance avec le Parti socialiste, le Parti communiste ou autre. La question, c'est est-ce que ce que nous portons a des chances d'aboutir, de se mettre en œuvre? Voilà, c'est à ce prix-là que se construisent des rassemblements.
Oui, dans la clarté, il ne faut pas trop schizophrène, parce que les gens vont observer que, par exemple, à Blois, des écologistes travaillent avec des socialistes. Au sein de la région Centre-Val de Loire, depuis des années, ça se fait plutôt pas mal. Mais au niveau national, c'est pas possible.
Mais non, mais parce que il y a plein d'éléments. Il y a d'abord aussi des questions de mode de scrutin, parce que évidemment, vous citez des scrutins qui sont de nature tout à fait différente. Et donc, quand on est dans les régions, si ça se passe bien, c'est aussi parce que nous avons une forme de rapport de force qui permet justement que le cap soit tenu. Ce qui peut être aussi le cas quand on descend à des échelons où la proportionnelle est également présente. Donc c'est ça. Et puis après, il y a une affaire d'hommes. Il y a des gens avec qui on arrive à établir ces programmes, on arrive à construire un projet. Et puis il y a des étages où c'est beaucoup plus compliqué. À l'Assemblée nationale, on a un groupe, certes, qui peut faire des propositions, qui peut être présent, mais au sein du gouvernement, voilà, c'était obligatoirement soit ministre et tais-toi, c'est la formule consacrée. Et quand on sent que l'orientation est contraire à ce que nous défendons, nous ne pouvons pas rester au sein d'un tel gouvernement. C'est, je crois, une évidence, une cohérence. Et la cohérence en politique, ça me paraît être une qualité fondamentale.
Mais on ne peut pas peser davantage en étant présent à l'intérieur plutôt qu'en restant à l'extérieur.
Je pense qu'il faut pas seulement peser, il faut que nous arrivions à démontrer notre capacité à diriger, à porter. Et je crois que ça se démontre aussi de l'extérieur, pas nécessairement en étant dans le gouvernement. Il faut donc pour ça avoir une certaine liberté d'expression qui nous permet de présenter nos solutions, de les porter, de les défendre par un travail parlementaire, par un travail dans les territoires, par un travail en lien avec la société civile. Quand on regarde les enjeux de la COP21, de la conférence climat, ce ne sont pas simplement les mouvements politiques qui vont régler le problème climatique. On mesure que c'est dans les territoires que va se construire les réponses aux enjeux climatiques. Il faut reterritorialiser ces questions-là. Les citoyens, quand on leur parle d'une augmentation de 2 degrés en moyenne sur la planète, qu'est-ce que ça veut dire? Il fait chaud cet été ou il fera plus froid cet hiver? C'est difficile à mesurer. Donc je pense qu'il faut reposer ces questions dans les territoires. Les citoyens, les acteurs économiques, le mouvement social sont ceux qui portent aussi les solutions de cette transformation.
Avec une image qui souvent paraît brouillée, voire pas très bonne pour les écologistes. On a le sentiment que les écologistes s'opposent à tout progrès. Que ce soit Notre-Dame-des-Landes, que ce soit Sivens, que ce soit au plateau de Millevaches, que ce soit partout, la ferme de Millevaches, par exemple. Partout, Vous êtes contre.
C'est étonnant parce que la liste de progrès que tu situes, que vous proposez, Pascal, sont pas forcément les progrès. Ce sont pas des progrès.
C'est emblématique.
C'est pas des progrès à mes yeux. Ce sont des évolutions, mais que je conteste parce que justement, ils sont à contrario des enjeux climatiques, à contrario d'une planète qui atteint ses limites. Et ça, c'est ça que disent les écologistes. C'est-à-dire qu'ils étudient toute forme de progrès sous l'angle de l'utilité sociale, l'utilité environnementale et l'utilité économique. C'est ça l'analyse des écologistes. C'est pas qu'on est contre tous les progrès. Moi, je suis pour le numérique, mais je suis pour qu'on ait une véritable éducation au numérique. Je suis contre le Wi-Fi, parce que là, il y a des ondes et que ça pose des difficultés pour nos concitoyens. Mais je suis pas contre le numérique. Ça apporte des progrès fantastiques dans les territoires ruraux, d'accès à la connaissance, d'accès à la santé, aucune difficulté avec ça, mais pas à n'importe quel prix. Il y a des bénéfices, il y a des risques, il faut être capable de porter cette analyse. Ça vaut pour les nanotechnologies, ça vaut, etc., etc., pour un certain nombre de sujets. Voilà. Et quand on parle du nucléaire, par exemple, les risques sont bien trop grands pour qu'on puisse considérer cette énergie comme une énergie du futur.
Ouais. Enfin là, il y a des différences avec d'autres partis de gauche. Le Parti communiste est pour le nucléaire. Ça risque de compliquer des rapprochements.
Et si j'écoute Olivier Dartigolle, qui était présent dans nos journées d'été, on a eu un débat, progressivement, le Parti communiste se positionne plutôt dans la perspective d'une sortie du nucléaire. Après, il y a des questions de rythme, il y a des questions de manière de construire cette sortie, mais j'ai entendu ça. Donc voilà, maintenant, évidemment, il faut que ça soit dans les faits, il faut que ça soit partagé par tout le monde. Je pense que sur ces questions, nous avons fait bouger la société et ça, j'emporte une certaine fierté collective. Et donc, je crois qu'il faut continuer dans cette voie.
Alors donc, dans 4 mois à peine, donc auront lieu les élections régionales. 6 et 13 décembre, bon, des dates un peu inhabituelles, juste avant Noël. Donc, avant l'été, vous avez déjà annoncé les binômes. Donc, vous ferez équipe avec Sandrine Tricot en Loire-et-Cher. Les binômes sont constitués dans les 6 départements de la région. Quel va être un petit peu le calendrier? Comment vous allez organiser cette campagne? On a bien vu que vous vouliez faire passer des idées, organiser des débats.
Oui, peut-être avant de parler du calendrier, dire que effectivement on a désigné des candidats, mais que nous sommes toujours en échange avec d'autres organisations, avec des collectifs, avec d'autres mouvements politiques.
Ah, les portes ne sont pas fermées.
Évidemment que non. Dès lors que tous ces organisations, ces collectifs citoyens peuvent se reconnaître dans un projet écologiste. Quand je dis écologiste, c'est pas un projet d'Europe Écologie Les Verts. C'est un projet de transition écologique de notre société qui est indispensable. Et je crois que ça, on est nombreux à se retrouver autour de ça. Qu'on arrive à construire une dynamique citoyenne. Évidemment que la porte est ouverte. Et moi, je continue à discuter. Voilà.
Mais vous appelez François Bonneau régulièrement?
Alors, François Bonneau, non, on s'est pas revu. On se reverra sans doute. Moi, ce qui m'importe, c'est le projet que nous avons apporté au premier tour. Et nous avons là-dessus, un certain nombre de différences qui conduit à pas représenter un projet ensemble. Mais d'autres organisations politiques, d'autres mouvements citoyens, voilà. Si je prends l'exemple de Sandrine Tricot qui sera sur notre liste, voilà, c'est une citoyenne engagée. Elle a été engagée dans une dynamique à Vendôme qui était au-delà des partis politiques, qui réunissait plusieurs partis politiques, qui se reconnaissaient dans le projet qui était porté. C'est exactement la même démarche dans laquelle nous sommes engagés. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, on est encore dans cette échéance-là, et donc nos listes peuvent évidemment évoluer à l'aune des échanges que nous avons. Et puis ensuite, on aura un mois de septembre que je dirais réellement participatif. Il suffit pas de l'annoncer, il faut le faire, même si c'est un exercice extrêmement compliqué. Que la participation, ça prend du temps, ça suppose d'être à l'écoute et pas simplement de dérouler un programme. Donc on aura toute une série de temps d'échange dans les départements. En Loire-et-Cher, j'ai déjà commencé depuis le mois de juin, une réunion tous les 15 jours, dont j'élargis progressivement les rangs et... Dans un premier temps, sans les médias, puisque dès qu'on est dans les médias, même nous changeons éventuellement notre manière d'entrer en échange. Donc moi, je voulais quelque chose de très authentique, qui progressivement, évidemment, va s'élargir, et on invitera évidemment tous les médias à participer à ces temps d'échange. Un mois de septembre participatif, puis ensuite on va rentrer dans le temps où on raconte aussi aux citoyens ce qu'est notre programme, ce que nous voulons porter au sein du Conseil régional et les transformations que nous voulons engager.
Vous voulez pas le faire tout seul, ce programme, mais avec d'autres.
Ah mais oui, bien sûr. Et d'ailleurs, les 15 candidats qui ont été identifiés jusqu'à maintenant sont tous en responsabilité de faire avancer une partie du programme, eux-mêmes avec d'autres. Donc on est dans une démarche de responsabilité, d'implication. C'est essentiel. Ça sera pas un programme qui va se construire en chambre. Ça marche jamais, ça. Il faut que tout le monde se reconnaisse, à commencer par nos 89 candidats. Et puis ensuite, les citoyens avec lesquels nous aurons travaillé. Voilà, ce sera des relais, évidemment, aussi d'opinion, des relais de notre programme auprès de nos concitoyens.
La gauche a un devoir en même temps d'union, donc un destin commun aussi contre la droite, contre le Front National qui s'annonce assez fort, sans doute encore en décembre prochain.
Bien sûr, quand on présente un programme, c'est pas pour être contre quelque chose, c'est parce qu'on pense qu'on est en capacité de gouverner. Voilà, et donc notre responsabilité à gauche, c'est évidemment de trouver le rassemblement dans un deuxième tour pour un projet que nous mettions en œuvre face justement à cette montée du Front National, à un projet d'une droite revancharde, ou en tout cas dont je partage profondément pas la vision, qui est une vision de tout en grand, qui est une vision qui reste justement à contrario des discours qu'on va entendre pendant la période de la COP21. Voilà, et je pense que nous avons la responsabilité évidemment de nous rassembler pour porter ce projet, et donc moi je ferai tout pour que ce rassemblement puisse exister, même s'il aura évidemment des conditions. Il y a des lignes rouges de contenu, il y a des lignes rouges dans la manière d'organiser cette éventuelle fusion. Voilà, mais c'est pas la question immédiate. La question immédiate, c'est le premier tour, c'est ce que nous avons à raconter. Moi j'espère bien que notre projet séduira, entraînera les citoyens dans cette nécessaire transition. Nous n'avons pas le choix, notre planète a atteint ses limites.
Oui, et il y aura cette conférence sur le climat, c'est une sacrée coïncidence en même temps. C'est une opportunité, peut-être.
Moi, je la prends pas comme une opportunité. D'abord, je pense pas que tout va se jouer à la conférence. C'est pas parce qu'elle est à Paris qu'elle devient extraordinaire. Il faudrait pas oublier que
le débat va être ouvert.
Voilà, faut pas oublier que chaque année, il y a des conférences à peu près partout dans le monde. Il y en avait une au Maroc il y a pas très longtemps en 2014. Donc, il faut pas perdre tout ça de vue. Donc, l'enjeu va être plutôt comment ce temps-là est un temps dans notre pays pour que des initiatives se prennent à tous les échelons de la société, pour que tout le monde prenne conscience de l'enjeu, pour justement matérialiser un peu cet enjeu du climat, le relocaliser. Voilà, c'est un temps fantastique pour ça, effectivement, pour que la conscience collective soit en mouvement et que des initiatives en découlent. C'est pas simplement un accord mondial qu'il nous faut. Si on continue dans cette voie-là, on risque d'être complètement en décalage entre des règles mondiales, un marché du carbone, des règles de compensation, voilà. Mais en même temps, à côté de ça, peu d'initiatives pour y répondre. C'est un problème global. Il faut que ça touche tous les aspects de notre vie quotidienne. Il faut que ça touche tous nos territoires.
Ouais. Vous n'allez pas parler que de ça aussi, parce qu'en ce moment, il y a une agriculture qui est à bout de souffle. Il y a combien, 3,5 millions de chômeurs, donc.
Bon. Mais tout ça, c'est des conséquences aussi, ou en tout cas, c'est en lien avec cette question. La question de l'agriculture, le modèle agricole, c'est un modèle incompatible avec les limites de notre planète. Le système dans lequel nous sommes rentrés, et d'ailleurs, c'est les agriculteurs qui en sont les premières victimes. Donc, il faut changer de modèle agricole, non seulement pour les enjeux climatiques, mais aussi pour évidemment des enjeux sociaux, des enjeux d'être en capacité de nourrir les populations. C'est un enjeu fondamental. Il faut relocaliser les économie. Et il faut relocaliser l'agriculture. La solution, elle est là. Elle n'est pas dans un marché mondialisé tel qu'il l'est aujourd'hui. Elle n'est pas dans un système de subventions qui est arrivé à bout de souffle. Elle n'est pas dans un système qui appauvrit la nature. On a atteint des limites là aussi. Il faut pouvoir les dépasser. Les questions de l'emploi. Quand on a été dans la première révolution industrielle, la révolution du pétrole, on disait finalement demain on travaillera peu. Il y aura peu moins en temps. Il y aura du travail pour tout le monde. Ça sera l'opulence pour tout le monde. Finalement, ça a produit le contraire. Ça nous a conduit dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, évidemment, quand on va penser l'avenir énergétique, quand on va penser l'avenir pour répondre aux questions climatiques, il nous faut avoir une autre approche du travail. C'est aussi un enjeu extrêmement important. Entreprendre autrement. Comment on soutient de l'initiative locale, de l'initiative non délocalisable, de l'initiative solide qui va répondre dans des circuits courts aux besoins de nos concitoyens. Comment on va inventer une autre économie? Comment on va inventer une autre manière de travailler? L'usine de demain sera pas la même qu'hier. Voilà, c'est tout ça aussi les enjeux de cette campagne, c'est de pouvoir ouvrir ces débats-là.
Bah, à bientôt, alors, hein, Charles Fournier. Donc, on aura largement l'occasion de revenir sur toutes ces questions, ces débats à l'occasion des élections régionales. Je rappelle que vous serez le chef de file des écologistes lors des élections régionales. À bientôt, bonne journée.
Merci, Pascal.
Elle est ici, elle est pour vous.
La radio du Loir-et-Cher.
Plus FM.